Bon réveil avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un gendarme héroïque, la France s'apprête cette semaine à célébrer la mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué vendredi dans l'Aude. Après avoir pris la place d'un otage, la garde à vue de la compagne et d'un ami du djihadiste Radwan Latim a été prolongée.
L'ex-président de Catalogne, Carlos Puigdemont, doit être présenté aujourd'hui à un juge en Allemagne après son arrestation qui a suscité une vague de protestations en Catalogne.
Les Égyptiens sont appelés aux urnes à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi pour une élection présidentielle qui devrait voir la réélection dans un fauteuil du sortant Abdel Fattah el-Sissi. Il brigue un second mandat de 4 ans. Peut-on parler d'un pic d'optimisme qui a été atteint chez les chefs d'entreprise sur l'activité industrielle? C'est la question que posera Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal dans son biais économique.
Et puis comment devient-on un héros? Eh bien nous poserons la question dans une quinzaine de minutes à Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, enseignant et auteur spécialisé dans l'histoire militaire et l'analyse des conflits.
Radwan Latim a-t-il bénéficié de complicité? L'enquête se poursuit autour des proches de ce petit délinquant radicalisé qui a tué 4 personnes et en a blessé 15 autres vendredi dans l'Aude. Celui qui se présentait comme un soldat du groupe État islamique a été abattu par le GIGN. Les gardes à vue de sa compagne et de l'un de ses amis se poursuivent ce matin, Sophie Parmentier.
C'est le 3e jour de garde à vue qui commence pour la compagne du terroriste, une jeune fille âgée de 18 ans qui manifeste des signes de radicalisation. Les policiers antiterroristes interrogent aussi toujours un mineur âgé de 17 ans, un ami du terroriste. Les enquêteurs se demandent si ces deux jeunes gens savaient que Radwan Latim allait frapper au nom de Daesh. Ont-ils préparé avec lui son attaque? Ont-ils fabriqué avec lui les 3 engins explosifs artisanaux retrouvés dans le Super U? Ont-ils aidé Radwan Latim a trouvé l'arme de poing de calibre 7,65 avec laquelle il a semé la terreur de Carcassonne à Trèbes. En entrant dans le supermarché, le terroriste qui a crié qu'il était un soldat de l'État islamique était aussi muni d'un couteau de chasse et c'est avec cette arme blanche qu'il a infligé une blessure fatale au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Une plaie gravissime au cou a révélé hier l'autopsie. Elle a montré que ce n'était pas les blessures par balles qui avaient entraîné la mort du gendarme héroïque.
Et partout en France, les gendarmeries ont vu affluer personnalités et anonymes depuis vendredi. Des fleurs, des petits mots, des messages de solidarité pour rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué donc par Radwan Latim après s'être substitué à un otage.
Et on reviendra, Catherine, tout au long des matins sur cet attentat en compagnie de Bernard Rougier. Il sera notre invité aux environs de 7h40 sur la question du djihadisme. Et puis Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, lui évoquera la réponse politique. Et dans quelques instants, on sera avec Michel Goya, ancien colonel. Il réfléchit sur l'armée, sur l'héroïsme et on parlera avec lui d'Arnaud Beltrame.
Et après les attaques terroristes de vendredi, par ailleurs, Stéphane Poussy a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme dans le Calvados. L'ancien candidat aux législatives pour la France insoumise s'était félicité sur Twitter de la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Des propos unanimement condamnés, Pauline Pénanec.
À chaque fois qu'un gendarme se fait buter, je pense à mon ami Rémi Fraisse. Là, c'est un colonel. Quel pied. Voilà ce qu'avait écrit Stéphane Poussier samedi sur les réseaux sociaux. Des propos immédiatement signalés par le syndicat SGP Police. Yves Lefebvre est le secrétaire général.
C'est ni plus ni moins qu'un appel aux morts. On n'a pas le droit de tenir de tels propos. Et quand un individu comme ça a pu voir sa candidature validée pour être présenté aux élections législatives, je me pose vraiment de profondes questions sur la moralité de certains partis.
Inadmissible selon l'UNSA Police, pour qui Stéphane Poussy entretient une haine anti-flic, une haine qui gêne les ténors de la France insoumise. Mais pour le député Éric Coquerel, cela reste un acte isolé.
C'est même pas que ça m'attriste, c'est que ça m'écœure. Quand vous avez des candidats dans toutes les législatives, à certains moments, il peut y avoir ce type de personnes qui passent à travers les mailles. Ça fait des mois que sa suppléante essaie de reprendre contact avec lui. Notre réaction, elle est d'une condamnation totale.
L'ex-candidat a été exclu sans ménagement, nous dit le directeur des campagnes du parti, Emmanuel Bompard.
On a d'abord essayé de le joindre, c'est-à-dire qu'il devait retirer ça immédiatement, ce qu'il n'a pas voulu faire. On lui a aussi dit qu'il devait bien évidemment retirer toute référence à la France insoumise et qu'il n'était plus membre du mouvement. Ça n'avait rien à voir avec les valeurs qu'on porte.
Stéphane Poussy avait rejoint les rangs de la France insoumise en novembre 2016. Il a depuis effacé ses messages.
Elle va revenir sur les bancs de l'Assemblée. Ramlati Ali, médecin de 56 ans, a remporté hier le second tour de la législative partielle dans la première circonscription de Mayotte. Cette candidate sans étiquette à la suite d'une mise en examen pour complicité de fraude fiscale qu'elle conteste. Ramlati Ali avait vu son élection de juin dernier invalidée en raison d'un infime écart de voix, soutenue par La République En Marche avec 54,99% des voix. Elle a battu hier son rival Elad Chakrina, candidat Les Républicains, également soutenu par le Front National et Marine Le Pen. Mayotte qui voit la contestation sociale et sécuritaire s'essouffler un peu. Ce week-end, des barricades ont été temporairement levées pour permettre à la population de se ravitailler. Et hier, le comité de coordination des élus de Mayotte a annoncé que les services publics des collectivités rouvriraient aujourd'hui. Cette décision fait suite aux propos d'Édouard Philippe de nommer cette semaine un délégué gouvernemental pour, je cite, « élaborer en liaison étroite avec toutes les parties prenantes les propositions pour l'avenir du territoire ». Dans la quatrième circonscription du Loiret, Jean-Pierre Door, le député sortant Les Républicains, a largement remporté hier le second tour de la législative partielle avec un peu plus de 67% des voix face à la candidate En Marche, Mélusine Harlé. Il est 7h06 sur France Culture. L'ex-président de Catalogne, Carles Puigdemont, doit être présenté à un juge aujourd'hui en Allemagne au lendemain de son arrestation alors qu'il rentrait du Danemark. L'ancien président catalan, en exil volontaire en Belgique, savait qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen lancé par Madrid. Il a été interpellé hier au nord de l'Allemagne, donc à la frontière avec le Danemark, et placé en détention, Cyril Sauvageau.
Carles Puigdemont a passé sa première nuit derrière les barreaux à la maison d'arrêt de Neumünster, tout au nord de l'Allemagne. Il sera présenté ce matin au juge. La cour régionale du Schleswig-Holstein doit statuer sur son placement en détention dans l'attente de son extradition. Ensuite, conformément aux règles du mandat d'arrêt européen, l'Allemagne a jusqu'à 2 mois pour examiner la procédure et décider de livrer ou non son prisonnier à la justice espagnole. A priori, il n'y a pas vraiment de suspense. La coopération judiciaire entre Madrid et Berlin doit rendre possible cette extradition dans les délais. Mais l'ancien dirigeant catalan ne s'avoue pas vaincu. Selon plusieurs médias allemands, il envisagerait de déposer une demande d'asile en Allemagne. Autant dire que la bataille ne fait que commencer.
Et l'arrestation de Carles Puigdemont a suscité une nouvelle vague de protestations en Catalogne où des rassemblements ont donné lieu à des affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre à Barcelone. Le reportage de Laetitia Farine.
Alors qu'un grand cortège se rendait pacifiquement jusqu'au consulat allemand, le ton est monté dans un autre cortège, celui du groupe radical d'extrême gauche des comités de défense de la République qui se rendait à la préfecture. Les manifestants ont jeté des poubelles et des projectiles en direction de la police catalane qui a répondu avec des coups de matraque. Du côté de la manifestation pacifique, après l'arrestation de leur leader, ils étaient nombreux à se sentir indignés. C'est le cas de Nouria Abedjan, 22 ans, étudiante en tourisme.
Je me suis sentie comme si on avait piétiné mes droits, comme si on avait piétiné la démocratie une nouvelle fois. On nous a fait du tort, on nous méprise. C'est douloureux, très douloureux. Qui est responsable? L'Espagne, parce qu'ici il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ce que dit le gouvernement, c'est ce que dit le juge.
Pour Ivan Rodriguez, 43 ans, Carles Puigdemont est le symbole même de la lutte indépendantiste.
Pour moi, il représente l'espoir du peuple catalan d'obtenir une démocratie digne. Après l'incarcération de notre président, les moyens que nous avions de lutter pour notre indépendance s'en vont. Je ne sais pas ce qui va se passer. Comme le gouvernement espagnol a pris les rênes, nous avons beaucoup de peur et d'incertitude pour le futur.
Les indépendantistes ont appelé en cœur à une grève générale dans les prochains jours, le seul moyen pour beaucoup de faire entendre leur voix.
Laetitia Farine à Barcelone pour France Culture. L'opposition appelle à boycotter le scrutin et les Nations Unies, les ONG de défense des droits de l'homme ont déjà estimé que le processus électoral était compromis par les arrestations, les manœuvres d'intimidation contre les adversaires du président sortant. C'est une élection présidentielle sans suspense et sans enjeu qui débute aujourd'hui en Égypte. Deux choix possibles, le président sortant Abdel Fattah al-Sissi et Moussa Mostafa. Moussa, inconnu il y a encore quelques semaines, qualifié de candidat fantôme par les observateurs après la défection de tous les opposants. Dans toute l'Égypte, le culte de la personnalité pour Al-Sissi bat son plein, Christian Chéneau.
Dans les rues du Caire, on ne voit que lui. Le portrait du président Abdel Fattah al-Sissi est placardé partout. Des affiches géantes proclament qu'il est l'homme de l'espoir, l'incarnation du rêve égyptien. Au niveau politique, il a fait le vide autour de lui. Le président Sissi a organisé une élection taillée sur mesure. Son seul adversaire, un certain Moussa Mostafa Moussa, est en fait un de ses partisans. À longueur de journée, les chaînes de télévision chantent les louanges du raïs égyptien. Mais au-delà de ce matraquage médiatique, Abdel Fattah Sissi jouit encore d'une popularité incontestable chez les Égyptiens. On lui reconnaît une volonté sincère de moderniser le pays. Jamais depuis Nasser, autant de chantiers d'infrastructures n'ont été lancés en si peu de temps. Et puis, on salue son honnêteté et sa droiture. Beaucoup d'Égyptiens, notamment les Coptes et les femmes, voient en lui le seul rempart contre les islamistes. Mais en bâillonnant les voix discordantes, le président Sissi donne l'image d'un pouvoir qui se durcit et s'isole.
Christian Chesneau au Caire pour France Culture, à suivre dans le journal de 7h30, la misère dans laquelle se trouve le système éducatif en Égypte. Sur 140 pays examinés par le Forum économique mondial, l'Égypte se classe dernière pour la qualité de ses enseignements. Des classes surchargées, des professeurs incompétents, des violences en tout genre. Comment les enfants peuvent-ils apprendre quoi que ce soit dans de telles conditions? C'est le choix de la rédaction, à suivre donc dans une vingtaine de minutes. Le Parlement tunisien doit se prononcer aujourd'hui sur l'avenir de l'instance Vérité et Dignité. Créée en 2013, l'IVD est chargée de rendre justice aux victimes de la dictature et des violations des droits de l'homme en Tunisie. Son avenir est suspendu, Michel Picard.
Samedi, lors d'une séance houleuse et chahutée, les représentants du peuple ont été incapables de soumettre au vote la prolongation de l'instance. Le débat, entamé dans une ambiance délétère, a été repoussé pour permettre d'apaiser les esprits afin de trancher plus sereinement l'avenir de l'IVD. Le mandat de cette instance de justice transitionnelle devait se terminer fin mai. Or, le mois dernier, dénonçant le manque de coopération de l'État, elle a de manière unilatérale prolongé son mandat jusqu'à fin décembre, démarche contestée par certains députés. Personnalité clivante, sa présidente, Siem Ben Sedrine, a quitté l'hémicycle en cours de séance samedi, renonçant à présenter devant le Parlement les raisons qui l'ont poussée à prolonger le mandat de l'instance Vérité et Dignité. Depuis le début de son travail en 2014, cet outil de réconciliation nationale, né de la révolution de Jasmin, a entendu 49 000 personnes, reçu plus de 62 000 dossiers. Sa mission, dévoiler la vérité sur les violations des droits de l'homme commises entre juillet 55 et décembre 2013, une période couvrant la présidence d'Habib Bourguiba, celle de Zine El Abidine Ben Ali et les premiers gouvernements mis en place après la révolution de 2011. Étant donné la vivacité des polémiques entourant l'exhumation des violations passées en Tunisie, nul ne sait si la nouvelle séance permettra de trancher sur l'avenir de l'instance Vérité et Dignité.